Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateur. Des oreilles d'auditeur. Soyez tout ouïe, non ?
Non.
Des fleurs pour Sally.
Eh bien moi, tel que vous me voyez, actrice de renom, personnalité célèbre, respectée comme il faut, j'ai été une femme maltraitée, figurez-vous. Car ce que j'ai vécu cette année-là a été un véritable martyre, même si mon mari n'a pas une seule fois levé la main sur moi. S'il avait levé la main sur moi, tout le monde l'aurait su, parce que sur scène j'avais très peu de vêtements. Body, porte-chartel, bas, chaussures, chapeaux, on aurait vu les ecchymoses. Et puis, il fallait que mon visage soit parfait, impeccable. Ce que personne ne savait, c'était qu'il n'arrêtait pas de me crier dessus. Voilà comment il me maltraitait. Oui, vraiment, c'est le mot. Il me criait dessus au lieu de me taper dessus, parce qu'il savait que je ne pouvais me défendre. Comment aurais-je pu ? Il aurait fallu que je crie, moi aussi. Je ne pouvais pas. Il le savait et il en profitait. Il profitait de son avantage. Car dans un couple, si l'un crie, il faut que l'autre puisse aussi. Mais moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas crier parce qu'à 6 heures, je devais être au théâtre pour faire mes exercices d'échauffement. Et il fallait absolument que j'arrive avec une voix bien placée, parfaite. J'avais besoin d'avoir une tessiture très haute, avec ce mi sur aigu très difficile. Alors, évidemment, quand on doit faire un mi sur aigu tous les soirs, il faut dormir beaucoup, se reposer, ne pas discuter, ne pas s'abîmer la voix. Car la voix est une chose très sensible. Il ne faut pas la forcer, sans quoi on perd la tonalité, la profondeur, le velours. Oui, tous ces mots qu'emploie ma professeure. Et si on force la voix, le A disparaît tout au fond. Je m'explique. Si les voyelles labiales vibrent entre les dents, les cordes vocales ne sont pas frappées. Donc, si on ne veut pas forcer sa voix, on place le A là où, normalement, on place le I. C'est là que doit être la voix. Le I et le U sont plus faciles. C'est pour ça que l'idéal est de remplacer le A par le I. Quand on fait A, on le place là où on place le I. Mais quand on a la voix fatiguée ou que l'on a crié, le A va tout au fond. Il va jusqu'à la trachée. Et ça coûte très cher de le récupérer. Pas seulement le son, mais mentalement et physiquement. Si on perd le A, tout le travail sur le diaphragme est perdu. Perdez le A est 1000 fois pire que de perdre sa carte Visa premier. Une vraie catastrophe. Oh, croyez-moi. Et si on se dispute ? Adieu le A. Parti, à tout jamais, perdu. On le perd parce qu'on crie et parce qu'on se stresse aussi. Mais surtout parce qu'on crie. Ben c'est pour ça que les professeurs recommandent après un concert ou une représentation, quand on sort de sa loge, de ne pas parler pendant un bon long moment. Parce qu'on vient de passer presque 2 heures à forcer son instrument. Ils recommandent de parler le moins possible pendant 1 heure après la représentation. 1 heure au moins, et si ça peut être plus, tant mieux. Donc, si on a besoin de prendre un taxi. On doit parler avec une toute petite voix, comme un oiseau.
« S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire, rue Pinto Rosales ?»
Et même si le chauffeur vous prend pour une idiote, ou croit que vous vous fichez de lui et vous regarde d'un air bizarre dans le rétroviseur. Il n'y a qu'une seule exception. Le sexe. Quand on fait l'amour, on peut crier. Ça n'a pas d'importance. On ne perd pas son A. C'est comme un bébé qui naît. Il a beau pleurer, pleurer, pleurer. Ça ne le rend pas à faune parce qu'il a tout bien ouvert. Toutes ses résonances sont bien en phase avec son appareil faunateur. Quand une femme a un orgasme, c'est pareil. Le cri sort par en dessous, à l'endroit où l'on appuie sur le diaphragme, donc bien au-dessous du diaphragme. Depuis l'appareil reproducteur, pas depuis l'appareil faunateur. C'est-à-dire depuis le con. Excusez-moi de parler comme ça. Je peux être très raffinée si je veux, mais le fait est qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Quand on fait l'amour, on inspire par le con. Pas par la poitrine ni par le diaphragme, mais par le con. Et l'air entre et sort par en dessous. Et on est complètement ouverte. On peut crier fort sans forcer. On ne risque absolument pas de devenir à faune. À condition de crier par le con. Il faut crier par le con. Vous avez vu ces gitanes dans les rues qui n'arrêtent pas de crier et qui ne sont jamais à faune malgré tout ce qu'elles crient.
Chiani, amène-toi et rentre à la maison!
Elles ne s'escanent pas la voix pour autant. Parce que leur cri part directement du con. Mais nous, les gens plus raffinés, les gens cultivés, nous avons perdu ce contact avec la terre, avec notre corps. Et c'est pour ça que quand nous crions, nous forçons la voix et perdons ce « ah » si précieux. C'est pour ça qu'une chanteuse ne peut pas crier, ne doit jamais crier, sauf sur scène. Mais ça, c'est pas crier, bien sûr, c'est chanter. Je faisais 8 représentations par semaine. Une à 8h30 du mardi au jeudi, 2 à 8h et à 10h30 le vendredi et le samedi, et une à 8h le dimanche. Il fallait que je dorme 10h par jour, parce que tous les jours, à la même heure, il fallait que je sorte les mêmes notes, au même endroit. En vérité, je n'arrivais jamais à dormir 10h. 8 au maximum, à cause de la petite qui était debout dès 7h. De sorte que je vivais comme une esclave, ne me déplaçant que du théâtre à la maison et de la maison au théâtre. Je sortais de scène, je me démaquillais, je me changeais en 2-3 mouvements, je sautais dans un taxi et je disais au chauffeur
« S'il vous plaît, pouvez-vous me conduire, rue Pinto Rosales ?»
Avec ma petite voix d'oiseau, j'arrivais à la maison. Je libérais la babysitter, j'enlevais mon manteau, j'enfilais le tablier et hop! Je me dépêchais de préparer le dîner de la petite et de celui de mon mari. Ah, s'il était là, bien sûr, hein. Parce qu'une fois sur deux, il n'était pas là. Ah, s'il était à la maison, pauvre de moi. Car il me criait dessus. Ah, ça me stressait vraiment, hein. À peine arrivé, je tombais sur lui qui se mettait à hurler.
Pourquoi est-ce que tu rentres si tard? Bordel de merde!
Des choses comme ça, absurdes en plus. Parce que je rentrais toujours à la même heure, pas une minute de plus. Et bien sûr, je ne pouvais pas répondre à ces cris par d'autres cris, parce que j'y aurais perdu ma tessiture. Il fallait que je réponde en prenant ma petite voix d'oiseau. C'était complètement ridicule. Je faisais bien attention de ne pas discuter, car s'il était là quand je rentrais et que je tombais sur lui, il criait toujours comme un possédé. S'il n'était pas là, je ne perdais rien pour attendre. Car il rentrait du bar à des heures indues, ivre-mort, et alors, ou bien il me réveillait, ce qui était terrible pour moi, Je vous ai dit que c'était très important pour une chanteuse. C'est même essentiel de dormir 10 bonnes heures. Enfin, plutôt 8 dans mon cas. Ou bien, il se mettait en colère le lendemain, au réveil, pour une raison ou pour une autre. Parce que la nourriture ne lui convenait pas, ou parce que je n'avais pas bien pris un message téléphonique. Peu importait les raisons. N'importe quel prétexte était bon. Et moi, j'étais là sans pouvoir répondre, sans pouvoir lui crier dessus. Parce qu'une chanteuse qui force sa voix dans la journée ne peut pas se produire sur scène le soir. Ou alors, elle le peut, mais sans les notes aiguës. Ma professeure me disait,
« À chaque fois que tu es un contrarié, il faut que tu parles comme ça. »
Elle prenait cette petite voix d'oiseau.
« Parce que, en parlant comme ça, tu évites de frapper les cordes vocales. »
Si bien qu'il fallait que je supporte ses colères et ses cris et son chantage affectif, que je me tienne tranquille, que je respire bien à fond et qu'ensuite je lui dise de ma petite voix d'oiseau
« Bon, tu as fini de me crier dessus ? Parce que maintenant il faut que je te dise quelque chose et je te prie de ne pas m'interrompre. »
Mais lui, il m'interrompait sans arrêt. « Ne mens pas, tu étais au courant de tout !» Et bien sûr, je ne pouvais plus parler quand il m'interrompait. Parce qu'il aurait fallu que je crie encore plus fort que lui, pour me mettre à sa hauteur. Si bien que je n'avais plus qu'à me taire en attendant qu'il ait fini de crier. Pour revenir à la charge, inaccessible au découragement.
« Écoute, je vais t'expliquer encore une fois depuis le début comment tout ça est arrivé. »
Mais c'est lui alors qui revenait à la charge, qui m'interrompait avec ses colères.
Ah !
Et moi, je renonçais. Il y avait un moment où je renonçais, où je ne cherchais même plus à négocier. Quand il me criait dessus comme ça, que les veines de son cou enflaient, qu'il avait la figure rouge comme une tomate et les narines dilatées comme si elles allaient éclater, et les yeux rouges aussi comme s'ils étaient injectés de sang. Il y avait un moment où je finissais par renoncer. Ma seule défense possible, étant donné que je ne pouvais pas crier, c'était de baisser le son. Comme si j'étais en train de regarder la télé et de manipuler la télécommande. Le regarder. Mais sans l'écouter. C'est quelque chose qu'on apprend à faire quand on étudie l'interprétation. On apprend à se concentrer de façon à altérer la réalité environnante. Si bien que je le voyais, mais sans l'écouter, sans entendre sa voix. Car pendant toute l'année où le musical est resté à l'affiche, je n'ai pas poussé un cri. Ça commençait à me ronger, à générer de la frustration, de l'amertume. Et ce qui m'a sauvée, c'est le music-hall. Sans ça, je crois que je me serais effondrée. Mes camarades, en arrivant au théâtre, voulaient s'échauffer, exercer leur voix pour se mettre en forme, retrouver le dynamisme, être actifs. Ils se mettaient tout de suite à leurs exercices. Des exercices abdominaux pour tonifier le diaphragme, des exercices de voix, des exercices physiques, car normalement, il sortait de la sieste. Il s'était bien reposé. Il s'était levé tard. Pas comme moi, qui était déjà debout à 7h30 à cause de la petite. Donc eux, ils allaient au théâtre pour travailler. Ce qui est normal pour un acteur. Tandis que moi, j'y allais pour me reposer. Pour me libérer du stress et de l'angoisse de la journée. J'arrivais, je m'enfermais dans ma loge. J'enlevais mes chaussures, je fermais les yeux et je me mettais à méditer. Ce qui m'aidait, c'était de penser à mon personnage, à Sally Bowell. Je me disais, regarde donc cette pauvre fille dont personne ne sait d'où elle vient ni où elle va. Cette fille qui adore son père, mais le père ne lui téléphone pas, il ne lui écrit pas ni rien, et sa mère, on ne sait pas trop où elle est. Cette fille qui veut être une grande star, mais qui doit travailler dans un cabaret miteux en pleine Allemagne nazie, où la police fait des descentes tous les 4 matins. Cette fille, dont le petit ami finit par coucher avec son principal admirateur à elle. Vous imaginez? Les 2 seuls soutiens actifs sur lesquels elle peut compter, et voilà qu'ils couchent ensemble. Cette fille qui avorte et qui le lendemain remonte sur la scène pour chanter avec le sourire aux lèvres « La vie est un cabaret ». Ça m'aidait de me dire que si ce personnage existait, c'était parce que quelqu'un l'avait écrit, et que si quelqu'un l'avait écrit, c'est qu'il avait dû s'inspirer de quelqu'un d'autre, d'une fille parmi toutes celles à travers le monde qui en voit de toutes les couleurs, mais qui ont toujours la force de sourire et qui ne perdent jamais leurs moyens. Et je me disais, si Sally a pu le faire, toi aussi tu peux. Car Sally, c'est toi, et tu ne laisseras pas bouffer par ton mari, ni par personne. Tu vas sortir d'ici avec un sourire digne d'une publicité. Lumineux, éclatant, presque fluorescent. Et ils seront tous babas d'admiration. J'étais aidée aussi par l'odeur des fleurs, même par le simple fait d'ouvrir les yeux et de voir qu'elles étaient là. Une tache blanche, brillante, qui irradiait d'énergie. Car le blanc est la couleur de l'énergie. Il recharge les accus. Les acteurs savent ça. Ces fleurs, c'est une longue histoire. Toute vedette qui se respecte doit avoir son admirateur, vous savez. Ah, je ne dis pas ça pour rire, hein. C'est très sérieux, c'est très important, même si ça vous paraît un peu ridicule. Quand on joue la pièce depuis un certain temps, il est normal de recevoir des fleurs, des bonbons, des lettres, que sais-je. Et l'idéal, c'est d'avoir un admirateur bien réel. Quelqu'un qui vient voir la représentation, pas une fois, mais plusieurs. Et qui envoie des fleurs aussi longtemps que la pièce est à l'affiche. Ça fait toujours plaisir. Et encore plus quand on est mal comme je l'étais. Ce n'est même pas que ça fasse plaisir. C'est qu'on en a besoin. On a besoin de savoir qu'on plaît. Qu'il y a quelqu'un au dehors pour qui on compte. Et ah, je ne pouvais pas croire que cette folle tordue qui jouait le maître de cérémonie avait son admirateur. Un monsieur qui lui envoyait d'immenses gerbes de roses et des boîtes de bonbons avec lesquelles on aurait pu nourrir tous les enfants éthiopiens. Et que moi, j'en avais pas. Oui, bien sûr, un petit mot, par-ci, par-là, un petit bouquet de temps en temps. Mais rien de continu, rien de stable, pas de véritable admirateur. Et puis j'ai eu 40 ans, il n'y a pas longtemps. Et même si je ne fais pas mon âge, c'est très dur dans une profession comme celle-là, où l'apparence physique compte autant et la résistance aussi. Passé 40 ans, on a beau faire de l'exercice, faire attention à ce qu'on mange, ni chocolat, ni pain, ni pâtes, pas une goutte d'alcool. Les bourrelets s'installent quand même. Et on est épuisé au bout de 2 heures de danse. Ce n'est pas comme à 20 ans. Hein. On ressort faire un tour avec les copains après la représentation. Bref, j'étais donc assaillie par le doute. Est-ce que je n'étais pas trop vieille pour le rôle? Est-ce que ce n'était pas pour ça que personne ne me remarquait? Mais le pire, ce n'est pas de se dire ça. C'est que les autres se le disaient aussi. Ça a donc vraiment été une bénédiction. Quand les bouquets se sont mis à arriver, 1 par semaine, toujours des fleurs blanches, tous les mardis. Sinon, je ne sais pas ce qu'ils auraient dit. Personne, évidemment, ne savait que je les commandais moi-même chaque lundi au magasin en face de chez moi à un monsieur qui n'avait pas idée de qui j'étais, qui de sa vie n'avait jamais entendu mon nom, au point que quand je lui ai dit avec la petite pendue à mon bras, car elle venait avec moi partout où j'allais, vu que, pour rien au monde, mon mari ne se serait occupé d'elle. Qu'il fallait qu'il livre le bouquet à telle actrice, Théâtre Apollo, eh bien je me suis rendu compte qu'il n'avait pas aidé qui était l'actrice en question, c'est-à-dire de qui j'étais moi. Et donc, je lui ai dit oh, « C'est une actrice extraordinaire, vous savez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de la voir sur scène. Je lui fais livrer des fleurs parce que je l'admire énormément. » Le monsieur a dû penser que j'étais une de ces ménagères qui ont une passion entrée pour le théâtre. Eh bien, c'est bien ce que j'étais finalement. Ou du moins, c'est comme ça que je me sentais. Toute la journée à aller de la maison au théâtre et du théâtre à la maison, entre la cuisine, la lessive et le repassage. J'ai bien une femme de ménage. Mais la femme de ménage, il faut tout de même la diriger. Et en plus, bien sûr, elle ne venait que le matin. Seulement 3 jours par semaine. Étant donné que l'après-midi, il y avait la babysitter et que je ne gagnais pas assez pour payer de salaire. Ben c'est pour ça qu'il fallait que je travaille aussi à la maison. Au théâtre et à la maison. Et mon mari? Est-ce qu'il m'aidait? Vous voulez rire? Mon mari ne sait même pas faire son lit. C'est dire. Mon mari est réalisateur. Ben, c'est un bon réalisateur d'ailleurs. Mais il est très souvent au chômage. Vous savez comment c'est dans la profession. Et ça ne s'arrange pas. Quand je l'ai rencontré, il était beaucoup plus connu que moi. Vous voyez comme les choses changent. La roue tourne. J'étais alors une actrice débutante. Je sortais tout juste de l'école. C'est à peine si j'avais joué en public 2 ou 3 représentations de café-concert. Je n'avais même pas 20 ans. Et lui, à 25 ans... Il avait déjà tourné 3 courts-métrages, dont 2 avaient été nominés pour les Goya. Quand il m'a choisi pour être l'héroïne d'un de ses courts-métrages, j'étais aux anges. J'ai toujours pensé qu'il dirigerait un long-métrage et deviendrait un grand metteur en scène, un nouveau Medem ou... comment s'appelle-t-il déjà? Qu'on travaillerait ensemble et que je serais son actrice fétiche, comme Giulietta Massiglia pour Fellini ou... Fanny Ardant pour Truffaut. Mais l'occasion ne s'est jamais présentée et ça n'a rien donné. Malgré toutes les bonnes critiques qu'ont eues ces courts-métrages, malgré tous les prix récoltés dans les festivals, malgré tous les espoirs placés en lui, mon mari n'a pas rencontré de producteur qui accepte de financer son premier long-métrage. Une fois, c'était le scénario qui était trop confus. Une fois, c'était le concept qui n'était pas assez commercial. Un jour, il disait oui, le lendemain, il disait non, et que je te fasse lanterner, et que je te prenne même pas au téléphone pour te répondre. Bref, il a survécu en tournant des documentaires, des séries télé, des vidéos d'entreprise, des démonstrations de produits pour des séminaires de VRP, des choses comme ça. Pendant ce temps-là, ma cote montait, lentement, mais sûrement, comme des blancs en neige. Je crois que c'est pour ça qu'il s'est mis à boire. La frustration, et aussi le complexe d'infériorité, le fait que ça aille si bien pour moi, si mal pour lui, et parce qu'aussi, il a un caractère passionné. Quand il s'engage dans quelque chose, il s'engage à fond. C'est comme ça qu'il m'a séduite d'ailleurs, par l'ardeur qu'il mettait dans son travail. Car, si vous voulez que je vous dise la vérité, quand je l'ai vu pour la première fois, ben, il ne m'a pas fait beaucoup d'effet, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, à part ses très beaux yeux, il n'avait vraiment pas grand-chose pour attirer l'attention. Après, ben, c'est son ardeur qui m'a séduite. L'ennui... c'est que de l'ardeur, et je vous l'ai dit, il est capable de la mettre dans n'importe quoi, dans l'amour comme dans le travail ou bien dans le vice. Quand il aime, c'est à la folie. Quand il travaille, c'est à fond. Quand il boit, c'est pour de bon.
«
Une année a donc passé comme ça, à se disputer sans arrêt. Et si je ne l'ai pas quitté, c'est premièrement, parce que je l'aimais. Deuxièmement, parce que, quelque part, je le comprenais. Troisièmement, à cause de la petite. Et quatrièmement, allez savoir, peut-être parce que je suis bête ou que je suis habituée à subir ou que je me sentais coupable que ça aille bien pour moi alors que lui, avec tout le talent qu'il a, personne ne l'appelait. Le fait est qu'un an a passé, pendant lequel je me suis raccrochée au personnage de Sally. Car si Sally tenait le coup, je ne pouvais pas faire moins. Je me suis aussi raccrochée aux fleurs. Rien que d'avoir dans ma loge ce bouquet tout blanc, je faisais le plein d'énergie. Et j'en commandais un toutes les semaines. J'allais le choisir moi-même. Je le composais tous les lundis, alors que j'aurais pu payer au mois et demander qu'on m'envoie un bouquet blanc tous les mardis. Mais je préférais y aller moi-même tous les lundis, pour que ce soit chaque fois un bouquet différent, spécial, merveilleux, composé avec tendresse exprès pour moi. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris à composer des bouquets énormes pour pas cher. C'est parce que le monsieur de la boutique m'avait prise en affection. Peut-être étais-je une de ses meilleures clientes. Il me réservait les lys blancs, les plus belles roses, commandait des fleurs spécialement pour moi, et il m'expliquait comment composer le bouquet le plus spectaculaire avec le moins d'argent, au point que mes bouquets surpassaient de beaucoup ceux de l'acteur qui jouait le maître de cérémonie. Dans la troupe, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne parlaient plus que des bouquets. « Celui qui est arrivé aujourd'hui est une splendeur. Il passait à peine la porte de la loge. Et patati, et patata. » Quand on me demandait qui me les envoyait, je me composais d'un sourire mystérieux et je me taisais. Je ne mentais pas. Je taisais seulement la vérité. La rumeur a couru que c'était un producteur très important. Et je n'ai pas démenti. Je l'ai laissé courir et prendre de l'ampleur. Et avec le temps, tout le théâtre a dû croire que j'étais une réincarnation de la belle Otero. Ou quelque chose comme ça. Et Dieu soit loué qu'il y ait eu ces fleurs pour Sally. Parce que j'avais accumulé tant d'amertume et de frustration. Au bout d'un an, je me disais que j'allais plus supporter. Je comptais les jours qui restaient avant la dernière du musical. Et je me disais, le jour où on arrête, je vais lâcher une de ces bordées de hurlements à faire trembler les murs de la maison. Et ce jour-là a fini par arriver. Nous avions tenu un an à l'affiche, un record, et avec un excellent box-office en plus. Naturellement, après la dernière, nous sommes allés prendre un pot tous ensemble, car nous pouvions enfin faire ce que nous voulions avec notre voix. Il n'y avait pas à travailler le lendemain, ni le surlendemain, ni le jour d'après. J'avais prévenu mon mari que je rentrerais tard pour qu'il garde la petite ce soir-là, et rien qu'à entendre la voix qu'il avait au téléphone, je savais qu'au retour, ça allait être des hurlements. Mais je suis quand même sortie, et jusqu'à 4 heures du matin. J'avais passé une année entière, 365 jours, à me coucher à 11h30, sauf le samedi et le dimanche, à vivre comme une nonne. Alors, quand je suis rentrée à la maison, il m'attendait debout. Et dès que je suis rentrée, il m'a accueillie avec un
« D'où est-ce que tu rentres si tard comme ça ?»
Et il est devenu blanc comme un linge quand je lui ai répondu
« Tu vas arrêter de me crier dessus parce que je ne le supporte plus !»
Ça, évidemment, il ne s'y attendait pas. Et je crois qu'il ne se souvenait même plus que j'étais capable de crier aussi fort que lui, si ce n'est plus. Et nous avons eu l'engueulade du siècle. Ah, ça a même réveillé la petite. Et tous les voisins de l'immeuble, je présume. Et soudain, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Il s'est mis à pleurer. À pleurer comme une madeleine, avec des larmes grosses comme des pierres, à vous fendre l'âme. Et bien sûr, ça m'a totalement prise au dépourvu, car je ne l'avais jamais vu pleurer. De but en blanc, il s'est mis à dire que j'allais le quitter, que j'allais sûrement le quitter. Je lui ai dit que c'était ce que je devrais faire, qu'à la vérité, je serais bien mieux sans lui et la petite aussi, certainement, que ça ne peut pas faire de bien à personne d'entendre crier comme ça toute la journée. Alors il m'a dit « Tu vas me quitter pour ce producteur ?» Je lui ai répondu « Mais quel producteur ?»« Mais ce connard avec qui tu sors, Macintosh ou je ne sais plus quoi !»« Mais tu es fou ? Je ne sors avec personne ? Comment est-ce que je pourrais avoir une liaison avec qui que ce soit, puisque je ne fais rien d'autre que de travailler à la maison et au théâtre ? Tu le sais bien ?» Et il se remet à pleurer. « Ne mens pas ! Tout le monde en parle ! Ce rôle ridicule que tu m'as fait jouer ! Tu n'imagines pas l'année que j'ai passée avec l'autre qui t'envoie toutes ces fleurs blanches !» Alors, je me suis assise à côté de lui. Il a posé sa tête sur mon ventre et je lui ai caressé les cheveux lentement, très lentement, en chantant tout bas jusqu'à ce qu'il s'endorme, comme avec ma fille, quand elle fait des cauchemars.
Nouvelle tirée de
« Aime-moi, por favor »
de Lucia Exteberia. Le bazar aux nouvelles. Petite histoire, poème.
C'est-à-dire ?
Conte, récit.
C'est à ouïr.
Le bazar aux nouvelles. Des mots d'auteur. Des voix d'amateurs. Des oreilles d'auditeurs. Soyez toutes oui, non ?
Non.